Très bien, merci. Bon, si je comprends bien, ce qui nous sépare du moment du cocktail, c'est tous les mots que je vais prononcer.
C'est exactement. Donc, pas loin.
Il faut qu'ils soient bien sentis, synthétiques. Alors, j'avais prévu de vous dire deux choses, et puis en arrivant sur le bateau, je me suis dit que j'allais vous raconter une histoire. J'espère que je ne vais pas être trop long, mais j'aime bien raconter les histoires. En fait, c'est celle de ce poisson. Vous savez ce que c'est ? Du cabillaud. Le cabillaud, c'est la morue, hein, pour les nuls. Enfin, pour ceux qui n'ont pas fait... poisson en sixième. Donc le cabillaud. L'histoire du cabillaud, c'est une histoire qui est vachement sympa parce qu'elle montre une chose, c'est que l'humanité est capable d'atteindre les limites de la nature, et ce, depuis très longtemps. Depuis très très longtemps même. Pas très très longtemps. Disons que c'est en tout cas un des premiers exemples sur lesquels l'humanité a trébuché. Puisque le cabillaud, on empêchait depuis le XVIe siècle environ 200 000 tonnes par an, dans toutes les mers, surtout dans l'Atlantique Nord d'ailleurs. Atlantique Nord. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est le dernier terre-neuvier français. Hein. C'est qu'il y a eu un problème, quelque part. Voilà. Sinon, il y en aurait peut-être encore. Donc, on en a empêché à peu près 200 000 tonnes. Et puis, la Seconde Guerre passe. Progrès technologique formidable. On passe au moteur diesel sur les navires. Regardez, ce navire n'a pas de moteur diesel. Donc, on passe moteur diesel. C'est sûrement, d'ailleurs, les Britanniques, à l'époque, ils restent au moteur à vapeur sur les bateaux de pêche. Donc, ils ont une industrie de la pêche qui est complètement décimée. Quand les Espagnols et les Français, ils envoient leurs gros bateaux avec des gros moteurs pêcher. Et à la milieu des années 60, on atteint 800 000 tonnes de morue, de cabillaud pêché dans l'Atlantique Nord. 800 000 tonnes. En deux ans, ils ont tout raflé. Pouf, tout s'effondre. Et l'année d'après, donc fin des années 60, on retombe à peu près 100 000 tonnes de cabillaud pêchés. Bon, on se rend compte qu'il va peut-être falloir se poser des questions sur ce qu'on fait. Juste par ailleurs, au passage, vous savez combien ça mesure un cabillaud aujourd'hui, celui qu'on pêche ? 60, voilà, à peu près. En 1950, le cabillaud moyen, il mesurait 80 cm quand on le pêchait. En 1900, il mesurait 1 mètre. Et au début du 19e siècle, on pêchait très couramment des cabillauds d'1,80 m à 2 mètres. Et on voit tout le processus où, au fur et à mesure, on est allé, on ne s'est pas trop posé de questions. Il faut savoir qu'on n'est pas complètement responsable, parce que même les scientifiques à l'époque, ils disaient « Vous pouvez pêcher autant que vous voulez, de toute façon, l'océan est tellement grand qu'on n'atteindra jamais ses limites. » Et jusqu'à la moitié du 20e siècle, ça a été le mot scientifique majeur. Donc en plus, quand la science... vous explique que vous pouvez faire ce que vous voulez, vous le faites, sauf que 1965, paf, tout s'effondre, voilà. Et puis, deuxième crise du cabillaud majeur, alors il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu tout un tas de crises diplomatiques qui sont liées à la guerre de la morue entre l'Islande et le Royaume-Uni, c'est la Cod War, dans l'immédiate après-guerre, il y en a eu trois, des Cod War, qui ont vu les Britanniques, alors c'est ça qui est drôle, et j'aime bien cette histoire, c'est qu'en fait, les Britanniques, ils n'ont pas voulu que l'Islande crée une zone exclusive économique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu que l'Islande revendique une souveraineté sur ses propres eaux. Quand on voit le sketch que les Britanniques nous ont fait quand ils sont sortis de l'Union européenne, alors ça a été un des sujets principaux que j'ai eu à gérer pendant quelques années au moment du Brexit en disant « We want to take back control of our waters ». Bon, voilà, à l'époque, ils envoyaient les navires de la Royal Navy couper les funes des chalutiers. Ils étaient complètement tarés, les Britanniques. Bon. Mais ça n'a pas changé. On arrive dans les années 90, on est toujours sur des rythmes de pêche absolument démentiels. 92, c'est le collapse complet, en bon français, on pêche quasiment plus rien. Plus rien. C'est-à-dire que c'était 800 000 tonnes 65, vous descendez, vous retombez à 100 000, vous remontez vers 300 000, 92, paf, tout pète. Plus rien. C'est la crise mondiale sur la pêche. 92, c'est vraiment une année incroyable pour la pêche. L'année d'après, 93, le Parlement de Bretagne à Rennes brûle. Manifestation de pêcheurs qui dégénère. Toujours s'en souvenir. 93, c'est aussi une année où les Groenlandais expulsent tous les Vietnamiens et les Philippins, parce qu'en fait, c'était les gens qui travaillaient dans les usines de transformation du cabillaud. Donc en plus des flux migratoires à l'époque sur des pays qui sont loin de nous, enfin qui existent quand même. Et puis surtout, depuis 92, en fait, la production de poissons par pêche n'a pas augmenté. Nous avons atteint en 92 un pic qui est 90 millions de tonnes, et depuis, alors que c'était sur une pente croissante, il n'y a pas une tonne, il y a quand même un petit peu une variation, plus ou moins 5 millions de tonnes, hein, mais en gros, vous avez 90 millions de tonnes de poissons qui sont pêchés dans le monde, ça fait, avec une humanité à peu près quasiment 8 milliards d'individus, vous avez un peu plus de 10 kilos de poissons pêchés par individu dans le monde, comparé à ce que vous pêchez, ce que vous mangez comme poisson pêché, vous verrez que vous faites partie des privilégiés de ce monde. Je voulais le raconter parce que, quand même, quand on parle d'un sommet sur la durabilité, on est en plein dedans, et ça fait de nombreuses années que c'est le cas sur la pêche. C'est quelque chose, c'est un secteur sur lequel on a rapidement atteint les limites de ce que la nature peut fournir. malheureusement, on n'en a pas encore appris tous les ressorts et on continue sur certaines mers à surpêcher. Ça va mieux hein, dans l'Atlantique Nord-Est, pas pour le cabillaud, parce que lui, aujourd'hui, il subit le réchauffement climatique, autre sujet évidemment pour aujourd'hui, et il se barre vers le nord parce qu'il n'aime plus nos eaux trop chaudes aujourd'hui, même si aujourd'hui, on peut, voilà. Bon, je voulais juste vous raconter cette histoire parce qu'elle illustre quand même un peu aussi ce pourquoi on fait ce qu'on fait là, je crois. Hein, qui montre bien aussi que c'est des choix d'entreprise qui font que ça a été le dernier. Bon, voilà. Je voulais surtout vous parler de deux choses. C'est que bah, tout ce que vous faites, c'est bien. D'autant plus que si vous le faites volontairement, c'est mieux.
Merci beaucoup.
Mais surtout, je veux vous rassurer une chose. C'est que si vous le faites, vous, ça pourrait entraîner des distorsions de concurrence. Finalement, ça peut faire partie des choses sur lesquelles vous pouvez avoir une petite perte de compétitivité. Et donc, nous, notre boulot, c'est de faire en sorte que ceux qui sont vertueux ne soient pas pénalisés par rapport à ceux qui ne sont pas vertueux. Et ça s'appelle la réglementation, ça s'appelle la contrainte, en quelque sorte. Faire en sorte que bah, vous ne soyez pas les dindons de la farce en étant les gentils élèves, en étant vertueux. Bah, donc, nous, députés européens, donc je vous rappelle que le Parlement, c'est un des deux co-législateurs au niveau européen. On dit toujours la Commission, mais enfin, la Commission propose. Et ce sont le Parlement, d'une part, et le Conseil qui réunit les États membres, d'autre part, qui dispose, donc qui adopte les règlements. Et donc, je fais partie des 705 députés européens qui, à un moment, disent oui, non, ou peut-être, aux différentes réglementations. 2022, c'est une année sur laquelle nous avons beaucoup légiféré sur tous les sujets de durabilité, et en particulier, évidemment, en réponse à la question du changement climatique. Vous avez évoqué le paquet Fit for 55. C'est un des engagements de la présidente von der Leyen, quand elle est devenue présidente de la Commission européenne. C'est tout aussi un des engagements que nous avions dans notre programme, en tout cas celui de la liste sur laquelle j'ai été élu en 2019, c'est-à-dire réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne par rapport aux émissions de 1990. Mais tout ceci, ça doit découler, ça doit se concrétiser secteur par secteur dans des opérations très, très concrètes. Ce matin, je lisais un mail sur une des nombreuses boucles de diffusion auxquelles je suis abonné, de quelqu'un qui disait « Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie d'interdire la vente de voitures à moteur thermique en 2035 ? Vraiment, l'Europe n'a pas que ça, a vraiment que ça à foutre. Si elle était maligne, elle interdirait les grosses voitures, ça c'est peut-être pas faux, mais on s'est loupé, ça, on ne l'a pas interdit. Donc, interdirait les grosses voitures parce que sinon, de toute façon, on n'arrivera jamais aux 55% en 2030. C'est parfaitement vrai, puisque vous aurez remarqué que 2035 pour la fin des moteurs thermiques, c'est 2035 et c'est pas 2030. Et donc, je vous rassure, l'Europe n'a pas rien fait et n'a pas fait que s'occuper des moteurs thermiques. Nous avons légiféré sur tout un tas de sujets. Et je voudrais juste vous balayer assez rapidement, parce qu'on ne va pas y passer la nuit, mais quelques-unes des dispositions que nous avons prises. Dans le même règlement que celui sur lequel nous avons interdit la vente de voitures à moteur thermique en 2035. Hein, donc, on n'a pas interdit la voiture thermique en 2035. Rassurez-vous, si vous avez une vieille de chaud, vous pouvez la garder. Par contre, nous avons exigé par ailleurs qu'en 2030, les voitures qui sont vendues soient en moyenne émettent en moyenne 55% de CO2 en moins qu'il y a quelques années, 50% pour les camionnettes, parce qu'on a conscience qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Ça peut évidemment vous concerner dans vos entreprises, parce que de toute façon, vous allez avoir à gérer des flottes d'entreprises potentiellement. Vous allez peut-être avoir des questions de logistique qui vont découler de tout ça. Vous avez évoqué le fait que parfois il pouvait y avoir des coulées d'étranglement sur la réalité à atteindre ces objectifs. Ça risque d'être quelque chose qui est face à nous, mais ça veut dire aussi que ce sont des opportunités de développement, parce que derrière toute contrainte, il y a une opportunité de développement pour celui qui est malin et qui réussit à trouver des solutions. Et donc ça, là aussi, c'est un avantage compétitif qui peut être tiré tout autant que des bâtons dans les roues mis dans le développement. Vous avez parlé d'une réduction d'ici la fin de l'année qui n'est pas directement liée aux contraintes réglementaires, réduction de production, mais on voit bien qu'il peut y avoir des effets qui sont ceux-là. Nous avons aussi, pour vous dire, quoi, quand même, on réfléchit tout à fait globalement, nous avons adopté un règlement sur l'utilisation des terres, la foresterie et l'agriculture, considérant aussi que les terres elles-mêmes, la biomasse que constituent les forêts, on n'est pas allé jusqu'à l'océan, mais peut-être qu'on le fera un jour, peuvent capter du CO2. En fait, si vous avez des cultures qui enfouissent de la matière carbonée dans les sols, eh bien, vos sols sont des puits de carbone. Or, aujourd'hui, on sait, quoi qu'il arrive, que ça n'est pas en agissant uniquement sur les sources d'émissions que nous obtiendrons ce sur quoi nous sommes engagés, c'est la neutralité carbone en 2050. Neutralité carbone, ça ne veut pas dire zéro émission, ça veut dire neutralité en termes nets. Et donc, il nous faut trouver aussi des puits de carbone, et c'est un des éléments sur lesquels nous travaillons. Nous avons réformé le système d'échange de quotas d'émission. SEC en français, le ETS in English, Emission Trade System. Nous avons fait baisser, enfin nous avons augmenté l'objectif de baisse des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Aujourd'hui, nous sommes encore en discussion entre le Parlement et le Conseil. Le Parlement dit 63, le Conseil dit 61, si je ne me trompe pas. Je pense qu'on va tomber sur quelque chose autour de 62. Voilà. Enfin, hein, en général, on essaye de ne pas passer des heures pour savoir où on met la virgule. Quoique, c'est le genre de choses qu'on aime bien. Et ça se passe en général vers 2-3 heures du matin où tout le monde est énervé. Bon, ça veut dire augmentation du prix du carbone, vous l'avez fort bien indiqué, augmentation du prix du carbone, forcément. Et puis en même temps, on va rajouter des choses dans le scope couvert par ce marché carbone. Le transport routier, le transport aérien, le transport maritime, juste une chose, soit dit en passant, parmi les revendications fortes des Gilets jaunes, du mouvement des Gilets jaunes, il y avait pourquoi est-ce que le transport aérien, le transport maritime ne paye pas leur carbone alors que moi on me demande une taxe carbone. C'est un élément qui est extrêmement important en termes de logique politique. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas faire en sorte qu'un secteur soit exonéré. Alors vous allez me dire, transport aérien, transport maritime, ça vient de l'extérieur, donc c'est compliqué. Bah, effectivement, on va faire en sorte que... Parce que les Britanniques aussi vont faire ça. Donc on va éviter de taxer deux fois le carbone quand il y a des échanges. Donc tout ceci est dedans, mais ça veut dire aussi que ça modifie fondamentalement les données. Bah, vous allez vous être potentiellement des réceptionneurs de marchandises qui viennent par la mer, ou vous en envoyez, bah, vous allez vous retrouver sur, et aussi un surcoût. Et parallèlement, nous avons adopté deux textes spécifiques sur l'aviation et le maritime, avec notamment un certain nombre d'obligations sur les changements de carburant. Tout en étant parfaitement conscient, par exemple sur le maritime, il y a un gros enjeu qui est que vos plus gros navires, il n'y a pas de solution aujourd'hui pour arriver à la neutralité carbone en 2050. On ne sait pas, il n'y a pas de solution. Donc on ne sait pas faire autrement que les gros moteurs au fuel lourd pour trimballer 20 000 ou 26 000 EVP à travers les océans. Il y a quelques solutions qui sont en train de se profiler. Vous évoquiez le fait que j'ai poussé le transport à la voile. On voit aujourd'hui qu'il y a des solutions, effectivement, qui ne remplacent pas 100% des émissions, mais, enfin, 100% de l'énergie produite à bord, mais par contre qui vous réduisent très fortement l'utilisation de ces carburants. Et comme vous êtes sur quelque chose qui doit être progressif, eh bien, vous êtes... On avance de cette façon avec ce genre de technologie. Nous avons aussi adopté quelque chose d'une promesse du président Chirac, la taxe carbone aux frontières. Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Pour le côté un peu technique, si on avait dit taxe, c'est un instrument fiscal, ça aurait nécessité l'unanimité des États membres, c'était le meilleur moyen que ça passe pas. Donc on l'a appelé mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc on n'est plus dans la politique fiscale, on est dans la politique économique. Et donc politique économique, ça veut dire que, il y a besoin juste d'une majorité qualifiée au Conseil. Et en plus, le Parlement européen peut même donner son avis, contrairement aux sujets fiscaux, où évidemment c'est chose trop sérieuse pour le laisser aux parlementaires. Donc je vous ai parlé du fuel aviation. Sujet important aussi pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a interdit, pourquoi est-ce qu'on a voulu interdire la vente de moteurs thermiques, enfin de voitures à moteur thermique. C'est parce que, en fait, si vous voulez décarboner le transport maritime et l'aviation, vous avez besoin de leur réserver les carburants alternatifs durables, ce qu'on appelle les SAF, Sustainable Aviation Fuel, qui sont constitués d'une part des biocarburants de nouvelle génération et d'autre part des e-fuels, donc les carburants que vous fabriquez à partir d'électricité renouvelable. Et typiquement, ça s'appelle l'hydrogène vert, ça s'appelle l'ammoniac, ça s'appelle le méthanol et en partie aussi le méthane que vous pouvez fabriquer sous forme de e-fuel. Simplement, nous savons aujourd'hui qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Il y a aujourd'hui un vrai goulot d'étranglement sur la production de ces énergies. Et donc, il nous faut plutôt le réserver sur l'aviation et le maritime et faire en sorte que la voiture, qui peut marcher avec des batteries, elle peut vraiment marcher sur batterie, elle va rester sur ses batteries, puis elle ne va pas venir en concurrence avec les autres, parce que sinon, vous rendez juste impossible la transition énergétique des autres secteurs. Voilà ce sur quoi nous avons... si ça a sonné, j'imagine, c'est qu'il faut que j'arrête. Donc je finirai juste par un point, pour dire quand même qu'on s'intéresse à vous, puisque je vous donne... évidemment, on s'intéresse à vous. Je vous donne là de grands aspects, des grandes données macro. Simplement, cette année, nous avons aussi adopté une autre directive, qui est la directive dont je ne sais jamais le nom en français, parce qu'on travaille trop en anglais, qui est la Corporate Sustainability Reporting Directive, donc la CSRD, qui en fait est la suite, enfin la révision d'une directive qui avait été adoptée déjà en 2014, et là que nous avons renforcée, donc qui oblige les entreprises à faire du reporting, pas simplement sur les questions financières, mais sur les questions extra-financières. Si vous avez regardé la série Parlement, quelqu'un a regardé la série Parlement ? Bon, Michel Pékin, c'est moi, hein, Michel Spéclin, pour la petite histoire. Et ben, c'est l'histoire de l'accountability à la fin. Donc, c'est tout le reporting extra-financier qui avant était réservé aux grandes entreprises. Enfin, en gros, vous avez plus de 500 salariés, je crois que c'est à peu près ça. Bon, maintenant, si vous avez plus de 250 salariés et vous avez plus de 40 millions de chiffres d'affaires, ben, il va falloir vous y mettre. Et en plus, on met un cadre réglementaire pour faire les déclarations. Ça va être important parce que si vous aussi vous êtes sous-traitant d'une entreprise de celle-ci, vous allez, sur forme à simplifier, aussi avoir à faire ce travail. Parce que si on veut pouvoir avancer et réduire, ben, il va falloir compter. Et donc, c'est ce qu'on va vous demander. Tout ça pour vous dire que on dit souvent que les politiques sont un peu à la traîne. Je n'ai pas trop l'impression qu'on est à la traîne à Strasbourg et à Bruxelles. En tout cas, on fait en sorte, et c'est ce que je vous ai dit au début, que ben, ceux qui font bien, ceux qui sont vertueux, ne soient pas distanciés par ceux qui ne le sont pas. Et je crois que c'est le sens qu'on doit donner à toute cette contrainte réglementaire qu'on vous met. C'est un peu le flux réglementaire qu'Olivier aurait dû vous évoquer tout à l'heure. Voilà, je vous remercie.
Très bien, merci beaucoup Pierre. Merci.